Je vais parler donc de l'affectivité dans la phénoménologie de Richir, un petit peu bien sûr par rapport à la question de savoir comment ça permet de peut-être de comprendre ce que Richir entendait par le réel. Et dans ses réflexions, ce qui va me guider, ce sont plusieurs objectifs. Alors je voudrais d'une part utiliser le concept de l'affectivité tout simplement comme voie d'entrée pour présenter l'originalité de la pensée de Marc Richir en comparaison ou en l'inscrivant dans les recherches phénoménologiques en général. Et ça peut se faire de deux manières. D'une part, Richir est l'un des historiens de la philosophie parmi les phénoménologues des plus remarquables, hein, parce que il lit les philosophes de façon extraordinairement précise, et ça vaut bien sûr aussi des autres phénoménologues. Il les lit de façon non moins précise, à l'exception peut-être ou peut-être sans doute de ses contemporains immédiats qu'il ne lit pas. Et c'est l'article sur l'affectivité dans l'Encyclopédie Universalis qui est une belle preuve de cela. Hein, il présente d'abord de façon synthétique, mais très, très éclairante et très, très intéressante, pourquoi le terme et le concept de l'affectivité est fondamental en phénoménologie. Et à partir de là, il va présenter son propre projet. Et je vais revenir là-dessus, mais j'agrandis un tout petit peu l'horizon, parce que ce qui est dit dans cet article de l'Encyclopédie Universalis ne couvre pas du tout entièrement la complexité de la notion d'affectivité chez lui. Et d'une part pour des raisons chronologiques, parce qu'il y a certaines choses qui n'ont été développées qu'ultérieurement. Et d'autre part aussi parce que je vais ajouter quelques notes personnelles par rapport à cela. Je vais essayer de, au moins pour un point, je vais essayer de dire ce qui me semble, de mon point de vue, l'apport et l'intérêt vraiment fondamental de Richir pour cette notion de l'affectivité en phénoménologie en général. Mais commençons donc d'abord par certains aspects historiques. Le concept de l'affectivité joue un rôle important aussi bien pour la première génération de phénoménologues que pour les développements ultérieurs en phénoménologie, notamment en France. Et dans tout cela, Richir est un acteur décisif. Force est toutefois de constater que les phénoménologues utilisent ce concept d'une façon extrêmement vaste, souvent, et qui déborde parfois le seul domaine de l'affectivité. Donc, dans ce qui suit, je présenterai d'abord brièvement quelques-unes des approches les plus importantes de cette notion. Et pour des raisons matérielles évidentes, je ne pourrai pas être exhaustif, je ferai un choix, bien sûr. Donc, il s'agit d'une certaine façon que d'un Anstoß, que d'un coup d'envoi pour amorcer la réflexion. Et je partirai donc, comme je l'ai dit, de l'article « Affectivité » qui a été commandé à Richir pour l'Encyclopédia Universalis. Et ensuite, dans la partie principale de mon intervention, je présenterai trois aspects qui me semblent centraux pour comprendre comment Richir traite de l'affectivité dans son œuvre. Donc, qu'est-ce que tout d'abord l'affectivité en phénoménologie, comprise dans son sens le plus général ? Alors, il y a certaines difficultés dès le départ par rapport à cette notion, et ces difficultés ne concernent pas seulement la phénoménologie, mais cette notion d'une manière générale. Tout d'abord, il est relativement difficile de distinguer l'affectivité, les affects, du concept de passion, hein, qui a acquis une grande importance dans la tradition occidentale, en particulier dans la philosophie moderne. D'autre part, se pose aussi la question du rapport entre l'affect et le sentiment, si tant est tout d'abord que l'on puisse si facilement ramener l'affectivité aux affects. J'y reviendrai. Ensuite, et c'est peut-être le point le plus important, l'affectivité se situe dans la tension entre une certaine sensibilité subjective et l'ouverture objective au monde. Hein, et c'est là-dessus que... Enfin, c'est sur ce point que j'attirais de façon centrale mon attention. Et enfin, il faut dire aussi, et ce n'est pas négligeable non plus, que l'affectivité se situe au carrefour entre différentes disciplines. Hein, autrefois, entre la philosophie et la religion, et plus récemment, entre la philosophie et la médecine, la psychologie et la psychopathologie. Et d'ailleurs, dans son article de l'Encyclopédie Universalis, ce sera un des angles d'attaque de Richir, que de montrer qu'il y a lieu de traiter de l'affectivité dans le cadre d'une psychopathologie phénoménologique. Donc, de toutes ces difficultés, se dégage déjà le noyau problématique vers lequel se dirige le concept phénoménologique de l'affectivité, dans la mesure où l'affectivité renvoie d'abord à la passivité, on peut se demander s'il s'agit là d'un champ qui serait interne au sujet, hein, et qui pourrait peut-être même avoir une signification constitutive pour lui, hein, pour le sujet, ou, autre possibilité, si dans la mesure où l'affectivité semble inséparable d'une objectivité qui affecte le sujet, on peut se demander cette affectivité est liée à une extériorité et comment ce lien serait alors à comprendre. Bon, eh bien, la phénoménologie répond à cette question en redéfinissant complètement les concepts d'extériorité et d'intériorité, du dehors et du dedans. Et pas seulement Richir, mais déjà auparavant, parce qu'il en va dans tout cela de la question fondamentale du rapport entre l'affectivité et la subjectivité. Donc c'est ce lien qu'il s'agit de clarifier. Bon, et maintenant, je vais suivre Richir dans son article, brièvement, hein, pour reconstituer chez Husserl, chez Heidegger, chez Merleau-Ponty, comment ce problème du lien, du rapport entre l'affectivité et subjectivité a été traité dans un premier temps, pour voir comment Richir se positionne ensuite vis-à-vis de ça. Alors, commençons par Husserl. En tant que père fondateur de la phénoménologie, il est également à l'origine, bien sûr, d'une phénoménologie de l'affectivité et des affects. Dans la mesure où l'intentionnalité, son maître mot, se caractérise en général par le schéma appréhension-contenu d'appréhension, et bien sûr, il y a aussi des exceptions à cette règle, mais dans la mesure où, en règle générale, c'est ce schéma qui caractérise l'intentionnalité, eh bien, l'intentionnalité de l'affectivité doit d'abord être mise en relation avec ce schéma. Et la question est alors celle-ci, est-ce que ce schéma appréhension-contenu d'appréhension est-il également valable, valide pour l'affectivité? Donc, pour y répondre, il faut d'abord dire un mot sur ce schéma, hein, que désigne ce schéma appréhension-contenu d'appréhension. Dans les recherches logiques, mais en réalité déjà auparavant, Husserl a appliqué a mis en évidence ce schéma lors de ses analyses de la perception d'objets extérieurs. Et ce, de la façon suivante, il a expliqué qu'il s'est demandé comment rendre compte de l'apparition d'un objet, et la réponse est de dire que l'apparition de l'objet correspond à une sorte d'animation ou de façon de faire vivre, hein, ou d'appréhender justement un contenu sensible, hein, par exemple cette forme, cette couleur, cette texture matérielle, hein, avec cette odeur ou ce goût qui produit tel ou tel bruit, etc. Donc, l'apparition de l'objet est expliquée par le fait que ce contenu sensible est appréhendé par un acte intentionnel et que l'apparition de l'objet s'explique précisément par là. Et le contenu sensible de l'appréhension fournit les déterminations réelles, entre guillemets, hein, de Sachlich, c'est-à-dire la teneur ou le contenu de telle ou telle perception. Bon, eh bien, l'idée maintenant est la suivante, et c'est décisif. L'affectivité et les affects ne coïncident pas avec ces contenus de perception. Hein, les affects ont leur propre nature. Et la différence réside d'abord, en gros, dans le fait que dans le cas des contenus de perception, le sujet a certes des sensations, mais celles-ci doivent être rapportées à l'objet et exclusivement. Donc c'est à rapporter à l'objet. Alors que dans le cas de l'affectivité et des affects, la situation se présente un peu différemment. Et la question, c'est donc comment Husserl tient-il compte de cette situation ? Réponse : l'intentionnalité de l'affectivité, dont Husserl traite notamment dans le volume 23 des Husserliana. D'une manière générale, l'intentionnalité de l'affectivité occupe une place particulière dans le champ global des différents types d'intentionnalité. On peut dire qu'elle se situe en quelque sorte entre les intentionnalités de la perception, de l'attention, de l'imagination d'une part, et les intentionnalités de l'instinct et de la pulsion d'autre part. Alors que celles-là, donc les intentionnalités de la perception en particulier, présupposent toujours des objectivités à titre de guide, hein, Gegenständlichkeiten, les intentionnalités de l'instinct et des pulsions rayonnent toujours en quelque sorte à partir du sujet. Bon. Eh bien, la particularité de l'intentionnalité des affects et de l'affectivité réside, en revanche, dans le fait qu'ils sont certes caractérisés par le rapport au monde extérieur, et en particulier par le rapport à l'autre, mais qu'ils établissent en même temps une relation particulière au monde. Un affect n'est pas seulement un sentiment, mais une unité de sentiments variés, et l'affectivité colore, pour ainsi dire, notre rapport au monde, comme si le monde était recouvert d'un voile affectif. Dans les manuscrits de Husserl, la question du rapport théorique à l'objectivité pure, c'est-à-dire en tant que débarrassé de la couche affective, reste un foyer d'inquiétude permanent au sein de ses réflexions et de ses discussions. Voilà comment Richir présente d'abord des choses chez Husserl. Bon, maintenant, chez Heidegger. Heidegger va donc, il va critiquer la position de Husserl. Et la principale critique de Heidegger, à l'égard de ses analyses intentionnelles de Husserl, ça concerne l'idée que ces analyses intentionnelles se réduisent à des analyses de la conscience, et le problème là-dedans, aux yeux de Heidegger tel que Richir le lit, c'est que ces analyses intentionnelles, ces analyses de la conscience, ne permettent pas de rendre compte de façon correcte et de façon appropriée du rapport originaire au monde. Alors que pour Husserl, dans la mesure la plus large, la référence au monde est précaire, ou du moins peut rester exposée au doute, pour Heidegger, le Dasein humain, est immédiatement et de manière absolument indubitable in der Weltsein, être au monde. Donc, cette question de... comment est possible le rapport au monde ? Est-ce que le monde, la réalité du monde extérieur est assurée ou pas ? Tout ça, d'une certaine façon, pour Heidegger, ce sont des fausses questions. Et le fait, par exemple, que la question de la réalité du monde est chez Descartes entièrement placée sous le signe de la mise en doute par le malin génie, c'est pour Heidegger tout simplement absurde. Et le fait de traiter de ça philosophiquement, c'est tout simplement superflu. Ce qui, d'un autre côté, soulève en revanche la question de savoir comment cela est compatible avec l'attitude phénoménologique fondamentale en tant qu'elle est caractérisée par l'époquée et la réduction. Donc cette attitude de Heidegger vis-à-vis de cette question de la réalité du monde, d'une certaine façon, se paye avec une fragilisation, voire une mise en question de la nécessité de maintenir l'époque et la réduction. Bon, en tout cas, Heidegger traite de tout cela par un autre concept qui est révolutionnaire et aussi considéré comme tel par Ischir, et c'est le concept de la Stimmung. Le concept heideggerien de la Stimmung, qu'on traduit par tonalité affective, par exemple. Donc, l'idée est la suivante. L'existence du monde n'est pas indubitable, bien que le Dasein soit toujours dans une sorte de relation teintée affectivement avec le monde, ce qui déboucherait sur un relativisme subjectif, mais l'existence du monde n'est pas indubitable précisément parce qu'il en est ainsi. Donc la conséquence est la suivante, le sujet n'impose pas au monde un voile affectif que l'on pourrait tout aussi bien lui retirer, pour révéler ainsi un rapport neutre au monde, un rapport qui serait, entre guillemets, affectivement neutre, mais la réalité du monde se révèle d'abord et seulement par l'accordage affectif du Dasein, si on veut le dire comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de rapport affectif neutre au monde, il n'y a pas d'ataraxie, etc. On peut dire qu'il y en a, mais ce n'est pas du tout une référence nécessaire pour avoir une sorte de base théorique assurée et qui soit une sorte de degré standard, mais notre rapport au monde est toujours teinté affectivement et il y a toutes sortes de degrés, il n'y a pas de référence absolue, mais c'est d'abord affectif. Voilà. C'est ça l'idée de cette Befindlichkeit, enfin de cette humeur. Et c'est ce qui caractérise l'état d'âme du monde, dit Ischir, et d'un seul et même coup, l'état d'âme propre de chacun, l'état d'âme du Dasein. Et une thèse importante là-dedans, c'est que, et c'est lié avec ce que je viens de dire, c'est que, disons, notre rapport premier et notre rapport immédiat au monde n'est pas un rapport réflexif, ce n'est pas un rapport intellectuel, tributaire d'une pensée, mais l'ouverture immédiate du monde est assurée par la Grundstimmung, par une Grundstimmung, ou disons par la Grundstimmung, mais cette Grundstimmung, elle change. Elle n'est pas dans toutes les périodes de la pensée de Heidegger la même. Dans Sein und Zeit, la Grundstimmung, la disposition affective, l'humeur affective ou la disposition affective fondamentale, c'est l'angoisse. Dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, cette fonction sera attribuée à l'ennui profond. Et quelques années plus tard, dans les Beiträge zur Philosophie, c'est la Verhaltenheit, difficile à traduire, une sorte de tenue, qui sera donc la Grundstimmung. Et le concept de Befindlichkeit exprime la même idée. La Befindlichkeit, c'est un existentiel, c'est-à-dire l'une des manières dont le Dasein, en tant qu'être au monde, ouvre le monde. Et Heidegger donne ici une place à la double signification du mot. Befindlichkeit, befinden en allemand, ça veut dire se trouver. Mais ça veut dire en même temps... être dans un état affectif, avoir une tonalité affective. Ça, c'est les deux sens. Et Heidegger attribue ces deux sens au mot. Donc le Dasein se trouve toujours dans le monde et il a toujours, ce faisant, ou dans cette situation, telle ou telle Befindlichkeit, telle ou telle tonalité affective. Le fait que Heidegger fasse de la Befindlichkeit l'un des existentiaux essentiels, à côté des deux autres fondamentaux que sont le comprendre et le discours, Rede, ça indique qu'il ne s'agit pas seulement pour lui, comme c'était le cas chez Kant, de mettre en évidence le renvoi mutuel de la sensibilité et de l'entendement, mais aussi de souligner le rapport de la pensée à une affectivité préalable. Donc, l'idée est la suivante. De même que l'être a une compréhension d'être qui est toujours aussi une compréhension préalable à toutes sortes d'onticités, il a aussi une voix, Stimme, hein, la voix c'est lié à la Stimmung, à l'humeur, il a aussi une voix befindlich, donc une voix teintée affectivement, qui est également préalable à tout étant, et donc il y a à ce niveau un parallèle, une sorte de parallélisme entre le comprendre et la tonalité affective, eu égard à cette dimension préalable, vorgängig, hein, qui est le terme que Heidegger utilise à la place de a priori. Maintenant, ce n'est pas tout, parce qu'il apparaît que chez Heidegger, il apparaît que le rapport de l'affectivité à la corporéité et à la Leiblichkeit est perdu. Précisément parce que celle-ci semble aussi renvoyer à la sphère de l'ontique. Donc, c'est un reproche qu'on fait d'ailleurs souvent à Heidegger, c'est de dire où on en est avec le corps, pourquoi il n'y a pas d'analyse du corps, et la réponse serait ben, parce que le corps n'a rien à faire ici, ça relève de l'ontique, alors qu'on est au niveau de l'existentiel et on n'a pas à jouer ici avec ça. Eh bien, sur ce point, Husserl s'oppose clairement à la position de Heidegger, même si, quand on regarde de plus près, il y a beaucoup de travaux déjà là-dessus, ce n'est pas si simple non plus. Il y a aussi, chez Heidegger, un tas d'analyses sur la corporité. Bon. Mais, disons, c'est ce qu'on retient. La position de Husserl, c'est que pour lui, le corps n'est pas une simple partie ontique du monde, mais le corps lui-même est un véritable être au monde. Et c'est la deuxième génération de phénoménologues qui vont s'inscrire dans cette même ligne de pensée, hein, et notamment Sartre. La conception sartrienne de l'affectivité, et je passe donc maintenant rapidement à Sartre, je suis toujours l'article de Richir par rapport à ça. Donc, la conception sartrienne de l'affectivité se fait en deux temps et met en jeu le corps de différentes manières. Dans un texte de jeunesse qui est en grande partie perdu, on n'en dispose plus que d'une partie, ça, c'est la tentative d'une théorie phénoménologique des émotions. Donc, dans ce texte, Sartre avait introduit l'émotion comme modification globale de la conscience qui entraîne une transformation radicale du monde. Bon, eh bien, ensuite, dans « L'être et le néant », Sartre va défendre l'idée qu'une affectivité originaire qui est en quelque sorte antérieure à l'affectivité en tant qu'elle est constitutive de la conscience du monde, que donc cette affectivité originaire constitue une conscience corporelle non thétique qui caractérise essentiellement le Dasein naissant. La conscience s'y saisit comme originairement affectée et comme factuelle. faktisch. Dans cette affectivité originaire, le sujet s'éprouve par un sentiment commun. Sartre parle à ce propos de co-énesthésie. Il s'éprouve comme une corporité qui existe pour elle-même. Et c'est dans l'entrelacement du corps pour moi et du corps pour autrui que naissent le désir et d'autres passions qui peuvent alors devenir, pour Sartre, l'objet possible d'une psychanalyse existentielle. Et donc c'est là que ça commence, cette idée, hein, que l'affectivité, ça se range du côté de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychopathologie. Et d'une certaine façon, de très loin, Richir va renouer avec ça. Mais parlons d'abord brièvement de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty propose, en partant d'une idée de base similaire, il propose quand même une autre voie. Donc, certes, pour lui aussi, il est possible de parler d'une sorte d'incarnation de l'affectivité dans le corps, mais ça ne conduit nullement Merleau-Ponty à une forme de psychanalyse phénoménologico-ontologique, comme c'est le cas chez Sartre, mais ça le conduit, Merleau-Ponty, à une ontologie de la chair qui doit établir le rapport phénoménologique entre la dimension sensible affective du sujet et la dimension matérielle ontologique du monde. Alors, Richir, il va notamment suivre cette voie merleau-pontienne en se situant radicalement en faux par rapport à Michel Henry, et il va développer parmi disons toutes les approches possibles au sein de la phénoménologie française, l'approche la plus détaillée d'une phénoménologie de l'affectivité. Et ça va donc. J'arrête maintenant cette brève présentation historique et je vais maintenant me consacrer à ce qui m'importe le plus, c'est-à-dire à différentes propositions que Richir fait. Je vais évidemment pouvoir esquisser seulement quelques idées fondamentales. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Je vais simplement donner trois éclairs ou trois orientations possibles, trois pistes. Et ça s'inscrit à chaque fois chez Richir dans une discussion avec la tradition philosophique. Ça ne tombe pas du ciel, mais c'est élaboré à chaque fois à partir d'une discussion avec des prédécesseurs. Donc, il s'agit de trois points qui peuvent être considérés d'une façon totalement séparée, mais qui sont bien entendu liés entre eux. Alors, premièrement, donc trois points, et ce sera tout pour aujourd'hui, pour moi. Donc trois points. Premièrement, avant que je revienne à l'article pour l'Encyclopédie Universalis et à la façon dont Richir va là-dedans esquisser son propre projet, je voudrais d'abord proposer une considération très générale sur la notion d'affectivité. Et il me semble que pour Richir lui-même, le statut de l'affectivité tel que je vais l'exposer maintenant de façon donc très, très générale, Richir n'en a saisi vraiment le sens et la portée que assez tardivement, en tout cas après 2000, c'est-à-dire après le fait de s'approprier la fantasia et de faire de la fantasia le concept central de sa refonte tardive de la phénoménologie, et pas tout de suite non plus, hein, parce que dans Phénoménologie en esquisse, il est tout le temps en question de la fantasia, mais ce n'est que quelques années après qu'il va substituer à fantasia le terme de fantasia affection. Qu'il va dire, attention, on ne parle de la fantasia de façon correcte que si l'on prend toujours en compte le fait que la fantasia est fondamentalement chargée affectivement. Donc l'affectivité, elle est totalement indissociable de la fantaisie. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que on peut, je crois, faire une remarque très générale sur le statut, sur l'essence et le statut de l'affectivité chez le Richir Tardif. Et ça, cette considération, cette réflexion générale sur l'affectivité, ça s'inscrit dans le cadre général de la pensée richérienne. Et ça veut dire, et j'en ai déjà glissé un mot ce matin, ça veut dire dans le cadre d'une phénoménologie transcendantale dans un sens un peu particulier. Parce qu'à la fois, fondamentalement, l'idée d'une refonte de la phénoménologie transcendantale est conservée, mais d'une façon particulière, comme je le disais, parce que sans sujet. Hein, il ne s'agit pas de ramener la source transcendantale à un sujet, mais Richir parle plutôt, il développe plutôt une pensée en registre architectonique. Dans le petit passage que tu nous as fait écouter, il a bien souligné, il dit attention, les registres architectoniques, il ne faut pas entendre ça comme des couches archéologiques qui se superposeraient, hein, ça n'a rien de spatial en ce sens-là, hein, c'est une autre façon, pour ainsi dire, un autre mot pour sphère constitutive. Mais justement, il évite ce mot parce que la constitution, ça renvoie à un sujet constitutif dont il veut précisément faire l'économie. Donc, c'est un transcendantalisme des registres, si on veut. Alors, comment l'affectivité intervient-elle là-dedans? Alors, je disais à l'instant, on peut faire comprendre ça si on inscrit cette idée dans une certaine mise en perspective historique encore. Et effectivement, ce dont il s'agit d'abord fondamentalement et dans une perspective historique, c'est que Richir remet en question un certain dualisme. Ça ne veut pas dire qu'il abandonne le dualisme. Ce n'est pas comme ça que je comprends Richir. Après, on peut en discuter. Moi, je lis vraiment Richir comme un dualiste. Bon. Mais après, on peut vraiment en discuter. Mais en tout cas, il met en question un certain dualisme, bien sûr, le dualisme des substances chez Descartes, c'est-à-dire le dualisme qui affirmerait qu'il y a d'un côté, je caricature complètement, mais qu'il y a d'un côté la pensée, hein, l'intellect, et de l'autre le corps, la matière, l'étendue. Donc, ça, c'est remise en cause par Richir, mais il y a eu des étapes antérieures, hein, et notamment, bien sûr, Husserl et Heidegger. Et bon, j'insiste pas là-dessus, je développe pas, mais Husserl, Heidegger et Kant, bien sûr, il faut nommer Kant aussi là-dedans. Kant le premier qui transpose la question de la dualité des substances sur un autre terrain, sur le terrain des facultés de connaître, et dans une perspective gnoséologique, ce dualisme se transforme en dualisme des facultés de connaître, de la sensibilité et de l'entendement, et qui repose principalement et essentiellement sur la différence de qualité entre les concepts et les intuitions. C'est-à-dire, c'est ça la dualité fondamentale chez Kant. Les concepts ne se laissent pas ramener au temps et à l'espace, ou inversement, le temps et l'espace ne sont pas des concepts. Et ça, c'est l'idée fondamentale du kantisme de la première critique. Bon. C'est un dualisme d'une autre façon que chez Descartes. Et chez Heidegger, ce dualisme est encore, disons, encore plus adouci parce que ça se place désormais sur le terrain des existentiaux et le comprendre et la tonalité affective sont encore bien davantage médiatisés que sensibilité, entendement chez Kant où il faut passer par le schématisme. C'est même plus nécessaire chez Heidegger parce que d'une certaine façon, la disposition affective et le comprendre se schématisent mutuellement. On n'a pas besoin d'une troisième instance qui assurait ce rapport, mais c'est déjà à l'intérieur même des deux extensions que cette schématisation a lieu. Bon, maintenant, chez Richir aussi, il est souvent question de dualité, hein, je le disais à l'instant, il y a toutes sortes de raisons de voir qu'une certaine forme de dualisme est maintenue chez lui, par exemple, le dualisme proto-ontologique schématique, ou la dualité des sources, ce qu'il appelle les deux sources de la fantasia pure ou de la fantasia primitive, à savoir le schématisme et l'autre source, l'aesthésis platonicienne, l'anstoß fichtéen, ou encore le regard maternel. Bon, tout ça, ce sont des différentes sortes de dualisme, ou tout simplement le schématisme et l'affectivité. Et l'idée là-dedans est la suivante. Si on veut comprendre l'affectivité, il faut la comprendre dans son rapport au schématisme. Et nous n'avons pas ici une reprise simplement de la dualité sensibilité-entendement. Parce que, fondamentalement, et c'est assez curieux, Richir ne s'intéresse pas, quand il réfléchit sur le sens se faisant, il ne se dit pas, on a des données sensibles, on a un contenu matériel et data illétique, ou comme on veut l'appeler, et à côté de ça, un entendement qui structure, qui constitue, élabore d'une certaine façon l'objet avec les catégories. Eh bien, Richir, non, c'est pas comme ça que ça se passe chez lui. Il ne s'intéresse pas aux catégories. À ma connaissance, et pourquoi à quoi c'est dû? Sans doute, entre autres, je dirais, parce que, à ma connaissance, Richir ne s'intéresse pas beaucoup à la logique. Parce que, bien sûr, les catégories chez Kant, c'est lié à sa conception de la logique formelle et transcendantale, et que y a un lien entre les catégories et les formes du jugement. C'est pas comme ça que ça se présente chez Richir. Et donc la question maintenant, et j'arrive à la conclusion de mon premier point, qu'est-ce que l'affectivité? L'affectivité n'est pas la matière pour une mise en forme intellectuelle. Ce qui attribue à ces formes permettant cette mise en forme, à ces catégories, ce qui leur attribue une valeur constitutive forte, mais il confère à l'affectivité toute source de réalité, toute source de détermination. Et c'est ça précisément la raison pour laquelle il substitue rapidement à la fantasia l'idée des fantasia affections. Parce que la fantasia est de part en part chargée d'affectivité et ça veut dire, en d'autres termes, que ça t'est très très joliment dit tout à l'heure, le schématisme, c'est ce qui répond du rythme. Le schématisme, c'est ce qui répond d'une certaine façon aussi de l'appropriation, de la Ereignung, de l'appropriation de ce qui flotte comme ça dans le vide. Ce qui relève de l'objectivité, etc., a déjà ces processus de constitution au sein même de l'affectivité. Bon, le temps avance, donc je vais sauter un passage. Dans les conversations avec toi, il y a plusieurs sous-chapitres sur l'affectivité, et je vous renvoie au passage où Marc Richir donne une récapitulation très claire et très, très concise, très, très précise des trois niveaux architectoniques de l'affectivité, c'est-à-dire l'affectivité, les affections et les affects. Bon, maintenant, deuxième point. Et là, je vais rejoindre le petit historique que Richir a lui-même proposé dans sa contribution à l'Encyclopédie Universalis. Pour Richir, une phénoménologie de l'affectivité est confrontée à deux possibilités qui sont assez proches l'une de l'autre. L'une revient, et je disais, il faut à chaque fois revenir à sa discussion avec les prédécesseurs. Là, ça va encore, on va rentrer dans la matière à nouveau comme ça. Donc, la première possibilité, elle revient à la perspective heideggerienne, qui doit cependant, d'après Richir, être révisée par le biais de Husserl et de Merleau-Ponty. Donc, il va maintenant retourner tout ça. Il ne va pas regarder comment Heidegger critique Husserl et comment Merleau-Ponty se greffe là-dessus, mais il renverse les choses. Il dit on peut apprendre des choses. Là, à l'époque, il disait encore ça. On peut apprendre des choses intéressantes dans Heidegger, mais à condition de le lire avec Husserl et Merleau-Ponty. Ça, c'est la première possibilité, la première perspective. Et l'autre suit une approche qui a initialement été développée par Henri Maldinet. Alors, selon la première possibilité, donc heideggerienne, revue par Husserl et Merleau-Ponty, il faut, encore une fois, se pencher sur cette idée d'une sensibilité incarnée. Donc sur l'idée qu'il y a une disposition affective, mais qu'on ne peut pas dissocier du corps, de la corporité, de la Leiblichkeit. Le corps est un être au monde, comme disait déjà Husserl, ou en tout cas tel que le lit Marc Richir, ce qui a pour conséquence que toute humeur est une humeur du corps. Et en même temps, on ne peut pas ignorer la dimension intersubjective coexistante de la corporéité qui, d'après Richir, est toujours médiatisée par le sens et le langage. De ce fait, dans l'affectivité, et par là, Richir s'inscrit vraiment en faux par rapport à Michel Henry, donc dans l'affectivité éclot un écart à soi-même, ce qui fait que l'affectivité se divise, spaltet sich, se scinde en ce qui apparaît à elle-même comme un dedans qui lui est associé, mais qui revient tout autant à autrui, d'un côté, et donc ça se divise en à ce qui apparaît comme un dedans, et de l'autre côté, à ce qui apparaît comme un dehors qui porte le sens langagier. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, pour Maldinet, l'affectivité est toujours liée à l'irruption de quelque chose d'étonnant, de quelque chose d'inattendu, qui est authentiquement tributaire de l'Ereignis, au sens de l'événement, tel qu'elle marque fortement la phénoménologie française au tournant du millénaire. L'indépendance de l'affectivité par rapport à elle-même, qui doit être présupposée pour son incarnation, ne signifie pas dès lors qu'elle se trouve dans un rapport auto-affectant à elle-même, ça c'est la critique de Michel Henry, mais qu'elle se reçoit, pour ainsi dire, dans son étrangèreté et son altérité à elle-même, et ce, au-delà de toute condition et de tout conditionnement par rapport à elle-même. Et pour cette réception affective de soi au-delà du soi, Maldinet forge le concept de transpassibilité. Et ça, c'est très important pour Richir. Il s'agit là de la réception d'une possibilité qui nous dépasse toujours déjà, donc d'un excès affectif, pour ainsi dire. Et cette idée d'un excès affectif est totalement centrale. Et j'y reviendrai à la fin. Je répète, il s'agit de la réception d'une possibilité qui nous dépasse toujours déjà. Donc, il s'agit d'un excès affectif qui est une composante nécessaire d'un rapport au monde qui maintient ouverte toute possibilité d'être, et d'un rapport sain avec l'autre ainsi qu'avec soi-même. Pour Maldinet, et Richir le suit en cela, un trouble du registre de la transpassibilité peut être une raison phénoménologique qui explique la psychose ou les psychoses. Bon, eh bien, sur la base de ces deux possibilités, donc heideggerienne revisitée et malinéienne, Richir développe sa propre phénoménologie de l'affectivité. Et son idée fondamentale est que cet excès affectif entraîne quelque chose d'effrayant, d'angoissant, qui renvoie à un moment du sublime. Et il introduit, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce terme est introduit, ce terme est très très central, c'est peut-être la figure centrale de Richir, et en tout cas du dernier Richir, le moment du sublime. Et je vais pouvoir en énoncer que quelques traits, peut-être que dans l'intervention de István, après, on entendra autre chose là-dessus. Bon, alors, qu'est-ce que le moment du sublime ? Le moment du sublime, constitue fondamentalement le moment d'éclosion et de déhiscence du sens. Et ce moment du sublime, pour le situer d'une certaine façon, historiquement, il se situe entre le je transcendantal, je, J-E, transcendantal, kantien, pure forme, rien de réel, rien d'expérimental, une pure forme, entre ça et le présent vivant ou serlien, hein, ce fluet qui est originairement fluent et fixe, qui, lui, est certes donné dans une expérience transcendantale, hein, contrairement à ce qui se passe chez Kant, mais qui n'en est pas moins essentiellement marqué par la détermination, encore métaphysique, d'y Richir, de l'éternité. Bon, alors, ce moment du sublime, en allemand, on a la possibilité de dire le moment en neutre ou masculin. Masculin, c'est le moment temporel. Neutre, c'est un moment qui n'est pas temporel. Bon. Et c'est ça que Richir a en vue quand il parle du moment du sublime. Ça ne s'inscrit dans aucune suite temporelle. C'est hors temps, hein, et hors histoire. De sorte qu'il n'est accessible qu'en pratiquant l'époque phénoménologique hyperbolique, qui met hors jeu toute position et en particulier aussi toute temporalité préexistante. Bon, et ce moment du sublime, ce n'est pas un simple exaefnes platonicien, ce n'est pas un simple instant, mais c'est quelque chose qui met en jeu un scénario, tout un scénario, et je le décrirai de la façon suivante, c'est très connu. L'idée est qu'au registre phénoménologique le plus archaïque, a lieu dans une consécution qui n'est pas dans le temps, hein, qui est hors temps, a lieu, et maintenant vous voyez pourquoi je parle de ça, parce que le sens est totalement affectif. Donc, à ce registre phénoménologique le plus archaïque, a lieu une croissance en intensité de l'affectivité, hein, une hyperbole de l'affectivité, qui implique en même temps une mise hors circuit de toute conscience. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure, en conclusion. C'est très important. C'est en dehors du temps et c'est une mise hors circuit de la conscience. Donc on se demande où on est, si c'est ni dans le temps, ni saisissable par la conscience. Bon. Mais c'est ça le point central. Donc, dans tout cela a lieu une croissance en intensité, une hyperbole de l'affectivité. La conscience est mise hors circuit, de même que toute pensée, tout langage. C'est ce que Richir appelle une interruption du schématisme. Et cette hyperbole, hein, cette hyperdensification de l'affectivité, s'interrompt ensuite de façon aussi instantanée et inopinée dans ce que Richir appelle un ex-aefnes platonicien, et provoque un retour, un revirement de l'affectivité sur elle-même. Donc il y a une condensation, une hyperconcentration de l'affectivité, et ensuite un relâchement. Et pour visualiser ça, Richir emploie la métaphore, qui a déjà été utilisée par Lévinas et Malinet, de la contraction, la systolée, bon, en français on dit systole, mais c'est pas correct, il faudrait dire systolée, et la décontraction, la diastolée, du corps humain. Du cœur humain, pardon. Le cœur, pas le corps. Du cœur humain. Et je donne une citation rapidement, qui est tirée des variations, du premier volume des variations sur le sublime et le soi, page 23-24. Richir écrit la chose suivante. On peut entendre par systole le ressaut de l'affectivité dans le moment du sublime, où, momentanément, coupé de toute attache, l'affectivité s'emporte en elle-même, en hyperbole, dans une sorte d'état hyperdense, et où, toujours momentanément, elle se réfléchit sans concept dans son excès, dont l'horizon est la transcendance absolue qui ouvre la question du sens dans la mesure où elle est irréductiblement en fuite, insaisissable, infigurable, donc inaccessible et radicalement indéterminée. Si ce moment du sublime, si ce moment persistait, l'affectivité s'y perdrait comme dans un trou noir et sans retour possible. Ce serait une sorte de mort psychique. Bien au contraire, la systole ou la systolée est immédiatement suivie de la diastolée qui en est la détente. Et elle est déjà schématique dans la mesure où elle est immédiatement reprise par le schématisme qui non seulement module l'affectivité en affection dans les fantasias perceptives, mais encore distribue corrélativement le sens, trop massif et trop surabondant, en lambeaux de sens plurivoques, tendu par et vers le sens désormais en appel, où le moment du sublime continue de jouer, mais en fonction ou mieux comme virtuel. Fin de citation. Le moment du sublime éclaire ainsi de façon saisissante le rapport entre l'affectivité et le schématisme, à la fois pour comprendre l'éclosion du soi et le statut de la transcendance absolue. Il est en effet caractérisé par une double interruption. Il y a une interruption du schématisme, d'abord, qui donne lieu à cette hypercondensation de l'affectivité, et puis il y a une interruption de cette densification elle-même, de cet excès d'affectivité, qui équivaut à une reprise du schématisme et à la constitution du contact de soi à soi, qui résulte précisément de la mutation de cette hypercondensation. Le moment du sublime confère à l'expérience son contenu déterminé via la diastole, en tant que relâchement de la densification de l'affectivité et en tant que reprise schématique, ou autrement dit, c'est dans la transcendance physico-cosmique que se décline sur le plan du contenu la transcendance absolue, en constituant par là le référent du langage. Bon, et je termine ce deuxième point, et le troisième, je serai très bref. J'ai encore quelques minutes ou pas ?
Principe 30, mais...
Ouais, bon, ben je vais vraiment finir. Donc, si le moment du sublime ouvre certes à la transcendance, ça ne veut pas dire que ce serait une sorte de réactualisation de Dieu ou d'un Dieu religieux, mais ça témoigne plutôt de la difficulté, de la nécessité et de la difficulté de traiter avec Dieu. Bon, eh bien, ce moment, et je reviens à l'article de l'encyclopédie, ce moment peut être négatif ou positif. Quand c'est un moment positif, c'est quand il y a rencontre. Tandis que dans le cas du moment négatif, il y a une opposition ou malencontre. Alors, qu'est-ce qui est en jeu là-dedans? Ce qui est en jeu, c'est la rencontre ou pas de l'excès, ou plus précisément, et c'est une idée profonde à méditer, ce qui est en jeu, c'est la rencontre de l'abgrund, hein, de l'abîme, au sens heideggerien. Comment ça se présente? Dans le cas du moment négativement sublime, la rencontre de l'abîme n'est pas possible. Elle est occultée ou ensevelie, et ce, au profit d'une recodification dans l'inconscient symbolique ou d'une réapparition de la soumission volontaire à la logique du péché et de la culpabilité. Le moment positivement sublime, en revanche, renvoie à la rencontre de l'excès de vie qui, en philosophie, désigne à chaque fois la vie d'un excès de sens qui ne se laisse pas capturer ou apprivoiser par une quelconque forme de matérialisme, de réalisme, de cognitivisme, etc. Ou en d'autres termes, il ouvre la transcendance de l'excès affectif comme abîme, comme abgrund. Dans les mots de Richir, je cite, cette citation est tirée de l'article de l'Encyclopédie Universalis, Richir écrit « Reconnaître l'affectivité n'est pas s'abandonner avec plus ou moins de ruse à l'expérience irrationnelle d'un voyage subjectif, mais éprouver du dedans une traversée qui, pour porter ailleurs, n'en rouvre pas moins à la juste appréhension de la mesure et du logos. » Fin de citation. Bon, je vais m'arrêter dans 2 minutes, j'ai encore 2 minutes. Je voudrais simplement ajouter en conclusion que je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps, je suis désolé. J'aurais voulu traiter plus en détail d'un troisième point qui me semble très intéressant par rapport à cette notion d'affectivité. C'est le fait que ce moment du sublime, on peut aussi le lire comme une auseinandersetzung avec Fichte, mais pas le Fichte de la Grundlage, pas le Fichte de l'assise fondamentale de la doctrination de 1794-95, mais de la doctrination de 1804. J'avais organisé avec Jean-Christophe Godard en 2004 à Poitiers, un grand colloque sur la doctrine de la science de Fichte de 1804. Et j'avais invité Marc Richir à ce colloque. C'était à l'époque où il travaillait sur l'affectivité, très, 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 très en détail. Et il est venu à Poitiers, il a fait une conférence. Et je me suis rendu compte récemment que... même si ce n'est pas tout à fait explicite comme ça, mais je me suis rendu compte que on peut lire le moment du sublime comme une interprétation en termes d'affectivité de l'idée fondamentale de Fichte dans la doctrine de la science de 1804. Donc, juste 30 secondes pour ça, et après je m'arrête. Quelle est l'idée fondamentale de Fichte dans la doctrine de la science de 1804? L'idée fondamentale est que il est possible de dégager une figure, et on pourrait tout à fait dire un moment, hein, au sens richirien. On peut dégager un moment qui est d'une certaine façon, et c'est très proche du moment du sublime tel que Richir en parle, qui d'une certaine façon est l'origine ou la source de tout sens, l'origine et la source de l'être, hein, l'origine est la source de toute compréhension. Et en quoi il est fait ce moment-là? Ce moment est la superposition de deux choses. D'un côté, l'idée que tout ce qui est doit être considéré à travers le prisme de la corrélation être et pensée. C'est-à-dire tout ce qui est s'inscrit dans la corrélation. Fichte dit ça, bien avant le corrélationnisme stigmatisé par Meyassou. Donc, d'un côté, il y a ça, et l'autre moment, c'est que cette corrélation, cette nécessité de la corrélation, elle est superposée à un double mouvement de position et d'anéantissement. Et ce mouvement-là, il ne s'inscrit pas dans le temps, dit Fichte, c'est hors temps, et il y a une sorte de mouvement bizarre de position et d'anéantissement qui forcément est processuel, ça ne peut pas être seulement ponctuel, mais en même temps c'est simultané. La position et l'anéantissement, ça va ensemble. Et de quoi il y a position et anéantissement? Réponse fichtéenne, de la conscience. De même que Richir dit que le moment du sublime, c'est la suspension et le relâchement de ce qui est à la source de la conscience, eh bien, il y a la même idée chez Fichte, sauf que Fichte ne traite pas de tout cela en termes d'affectivité. Il ne dit pas que c'est une concentration d'affectivité, un relâchement. Mais si on prend les différents éléments de Fichte et on regarde ce qui se passe chez Richir, on se rend compte que c'est une lecture affective, pour ainsi dire, de cette opération fondamentale fichtéenne dans la doctrination de 1804. Alors, Fichte lui-même a pris conscience de la nécessité de le faire. Et il le fera dans l'initiation à la vie bienheureuse. Deux ans plus tard, il reprend exactement ce même moment, cette même opération. Et il dit qu'il faut en traiter en termes d'affectivité, ce qui n'a pas été fait dans la doctrination de 1804. Eh bien, une des hypothèses, là, serait de dire le moment du sublime de Richir, c'est une sorte de reprise de ce projet-là, d'une lecture en termes d'affectivité de cette opération fondamentale de la philosophie transcendantale. Voilà, merci beaucoup.